Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Le choix de Thanutos. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Il y a accoupement en face d'un immeuble délabré. Un accoupement d'une vingtaine de jeunes entre 20 et 25 ans, habillés en guenilles, c'est-à-dire jeunes sales, habits ou habits de toile noire, cheveux au vent. Le jeune en retrait se trouve qui les regarde. Un jeune adolescent de 17 ans. Il est grand, mince, les cheveux châtains, peignés un peu en arrière, un visage clair, très fin, encore enfant. Il a d'immenses yeux bleus clairs, le front large, habillé d'un jean propre, d'une veste de laine marine et d'un t-shirt blanc. Il a des baskets noires et porte un porte-document en nylon bleu et noir. Se dégage de lui une grâce, une distinction presque irréelle. Tellement il est beau, on dirait un ange tombé du ciel. Donc, ce jeune regarde avec envie ces jeunes pleins d'allants, plus vieux que lui, et qui osent braver la police, car la police va venir expulser les squatteurs qui sont dans l'immeuble. Le printemps et la loi le permettent. La police arrive. La police s'est arrêtée devant l'immeuble. Les jeunes qui sont en face crient « CRS, SS, non expulsion, non fascisme !» Un policier tape sur la porte palière qui est fermée. Pas de réponse. Ils enfoncent la porte et entrent. Les policiers restent devant la porte. Les jeunes en face continuent à crier. La porte s'ouvre et sort avec fracas et cris les squatteurs et la police. Une dizaine de jeunes déglingués. Ils sont malmenés par la police qui les pousse dans les camions de police. Ils crient « À mort les fascistes !» Les jeunes en face crient aussi. La police ferme les portes de l'immeuble palière et reste devant la porte. Les cadres de police sont partis, il reste quelques policiers face à l'immeuble. Les jeunes en face crient. Le jeune adolescent qui a vu tout ça un peu en l'écart et avec beaucoup d'excitation a l'impression de rentrer dans le monde des adultes en s'intéressant à ces choses. Il voit que les jeunes crient de plus en plus fort contre la police qui ne réagit pas. Il aimerait rester encore une seconde et voir comment allait se terminer cette chose. Est-ce que la police allait charger ou tirer? Est-ce que les manifestants allaient se ruer sur la police et les massacrer à coups de crosse, barres de fer? Il regarde sa montre. Malheureusement, il ne peut rester trop longtemps. Il est déjà tard. Avec regret, il s'éloigne pour aller à Radio C, qui se trouve quelques rues plus loin. La radio se trouve rue du Sergent Noir, au numéro 2. C'est un pas de porte d'un vieil immeuble qui a été une laverie, ensuite un bureau d'architecte, et maintenant c'est le locaux de la radio. Petit locaux, petite radio. On entre dans un long couloir. À droite se trouve un hall d'entrée, puis les studios et la régie. Ensuite, il y a une porte fermée qui donne au bureau. Le jeune adolescent entre à la radio. Il est 20h. Avant de rentrer chez lui, il doit donner à un animateur une affiche qu'il a faite pour son émission. Il a fait l'affiche chez lui avec un ordinateur. L'animateur arrive. C'est un petit homme tout maigre, avec le visage osseux. Il a une abondante chevelure grise, habillé d'un vieil imper beige, pas très propre. Il porte en bandoulière un vieux sac en plastique. Le vieux monsieur ne fait pas attention au jeune homme. Le jeune homme lui dit « Salut Pierre-Max !»«
Oh, salut, c'est toi, bonjour !»
Il se retourne pour embrasser le jeune qui se laisse faire et embrasse Pierre-Max sur la joue. Le jeune ouvre son porte-document et en sort un papier. Tiens.
Oh, mais qu'est-ce que c'est?
C'est ton affiche. Pierre-Max regarde bien l'affiche. Elle représente au centre une terre bleue et marron avec au-dessus les lettres qui suivent la courbe de la Terre, le titre de l'émission,
à l'écoute du monde. En bas de la page est marqué « Sur radio » de vendredi à 12h30. Pierre-Max lui dit
« C'est bien, mais il manque quelque chose. Des hommes. »
Le jeune lui dit « Ça, je ne sais pas faire. » Entre dans le studio un homme de 40 et quelques. Je ne veux pas vous le décrire parce que c'est moi. Pierre-Mac me voit et me dit « Regarde ce qu'il m'a fait. » Je regarde l'affiche. Elle est très jolie. Pierre-Mac me dit
« Oui, mais... »
Il hausse les épaules. Je dis au jeune homme que je ne connais pas. Il est impossible. On lui fait des cadeaux et il n'est même pas content. Il ne remercie même pas. Pierre-Mac, tu devrais remercier le jeune homme. Elle est très bien ton affiche. T'as fait un très beau cadeau.
Oui, tu as raison.
Il se penche pour embrasser le jeune homme qui à son tour l'embrasse. Il l'embrasse bien en plus de ça. Je lui demande, qui est-ce?
C'est Gilles, un animateur qui fait une émission de mercredi après-midi.
Je lui demande, quelle émission?
Du rock français.
Pierre-Max lui dit,
c'est lui, Charles-Emmanuel, mon technicien.
Et le jeune dit, c'est vous qui faites l'émission L'écran radiophonique?
Oui.
J'aimerais vous demander, l'histoire que vous avez passée la première partie lundi à midi, vous ne pourriez pas la repasser le jeudi parce que le lundi, lorsque j'ai cours, je ne peux pas l'écouter.
Oui, bien sûr, je la rediffuserai le 22 mai et le 29. Cela vous va?
Oui, merci. La porte vient de s'ouvrir. Un jeune dans les 27 ans, cheveux noirs et lunettes. Gilles va vers lui et lui demande « Comment ça s'est passé la fin de la manif ?»
Le jeune lui dit un peu gêné « Très mal, les flics sont venus vers nous, nous ont lynchés, puis poursuivis, éparpillés. Certains ont été pris et mis dans des fourgonnettes. Moi, j'ai été poursuivi avec mes potes jusque vers les quais. Puis, ils ont laissé tranquille. » Mais lorsque nous sommes retournés place à Tenay, là, les flics en civil nous ont reconnus. Ils ont couru après. Nous sommes réfugiés dans un café. Ils sont rentrés dans le café, ont tabassé tout le monde. Il y a même eu des potes qui se sont cachés dans les frigos.
Gilles lui dit, mais ils n'ont pas le droit de faire ça.
T'es sûr?
Le jeune lui dit, oui. Et puis, ce qu'ils font... Et qui n'ont pas le droit, tu sais.
Après avoir dit ça, il se tourne en courant.
Gilles reste sans bouger, songeur, et dit « C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Saloperie de flics, de société, tous pourris. » Il se retourne et dit « Bon, il faut que j'y aille. Au revoir, Pierre-Max. » Pierre-Max lui dit « Tu reviendras à mon émission ?»
Oui, peut-être, Pierre-Max, mais tu sais que le vendredi, j'ai cours.
Tu écouteras alors?
Pas sûr, mais je verrai. Allez.
Et il quitte la radio. Avant de se trouver dehors, il entend derrière lui Charles-Emmanuel dire « Qu'est-ce qu'il fait ce jeune dans cette radio? Il est trop bien, on dirait un ange. » Gilles entre chez lui. Il habite chez son père. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 5 ans. Le père de Gilles, Edmond Grangier, habite un petit hôtel particulier, boulevard des Belges. La maison du 19e, à 3 étages, perron d'entrée, portail donnant sur le boulevard, cour pavé d'entrée. Côté cour, il y a un petit jardin et une porte privée donnant sur le parc de la Tête d'Or. Le père de Gilles était dans la diplomatie. Il a même été ambassadeur au Chili. Malheureusement, un accident de voiture où sa femme est morte lui a été grièvement blessé, paralysé des deux jambes et le corps fragile. Il lui a fait arrêter sa carrière. Et puis il a retiré avec son fils et deux domestiques à Lyon, sa ville natale. Gilles ouvre le portail. Entre et va vers la porte de la maison. Il sonne. Lui ouvre un vieux domestique, grand, maigre, cheveux bigris, habillé en domestique. Bonjour Fernand.
Bonjour monsieur.
Gilles entre. Grand couloir, escalier de pierre. Il monte jusqu'au premier, la petite couloir. C'est un salon anglais où se trouve assis sur un fauteuil roulant son père. Edmond est un homme de 42 ans, grand, enfin ce que l'on croit, mince, les cheveux châtains, un visage très doux, est habillé d'un costume gris clair avec dessus la rosette de la Légion d'honneur.
Tu rentres bien tard, Gilles.
Gilles s'approche de son père, se penche, lui donne un baiser et lui dit « Oui, je suis allé en ville, dans le premier, près de la place Sautenay. Je voulais voir la police expulser des squatteurs. » Ils en avaient parlé à la radio. « Ces salauds, si t'avais vu ce qu'ils ont fait ? Les pauvres, la société est vraiment pourrie. Ils sont venus avec des cartes police, sont entrés de force dans l'immeuble, ont sorti à coups de matraque les squatteurs, les ont embarqués. Ensuite, ils ont poursuivi les manifestants à coups de matraque. Ils sont même entrés dans un café. On tabassait tout le monde. Les gens ont même été obligés de se cacher dans les frigos. »
Dans les frigos? Tu en es sûr?
Oui.
Ton histoire ne tourne pas rond. On dirait un mauvais scénario de bande dessinée. Tu es sûr d'avoir vu tout ça?
Oui, mais je suis parti avant que la police ne parte à l'assaut des manifestants.
Ah, bon. Et qui t'a raconté cette histoire dormie debout?
Après, je suis allé à la radio. J'ai donné une affiche à un animateur, et là, un jeune de la radio qui était avec eux m'a raconté.
N'est pas un peu fabulateur, ton jeune?
Non, il a 27 ans et il milite.
Ah, je vois. Il milite contre quoi?
La société, la police, les fachos, tout quoi.
Oui.
On frappe à la porte. Entrez.
C'est le domestique. Le repas est servi, monsieur. Bien, nous arrivons. Vite, Gilles, va te laver les mains. Il est l'heure de dîner.
Gilles sort de la pièce pour aller dans sa chambre au premier étage, où se trouve la salle de bain aussi. le père et le fils prennent leur potage dans la salle à manger. Vaste pièce où on peut être largement 25. Les meubles sont Louis XIV. Le père et le fils sont assis l'un face de l'autre dans un coin de table. Tout en mangeant, le père lui dit «
Écoute mon petit, tu es jeune, c'est normal que tu cherches à connaître certaines choses pour te faire une opinion par toi-même. Tu as raison, je te laisserai toujours libre de le faire. Mais chaque fois que cela sera indispensable, je me permettrai de te dire ce que je pense sans t'imposer mes idées. » Ce que tu as dit là, cette histoire de flic qui tabasse. Je ne dis pas que la police est parfaite, ni qu'elle n'a jamais rien fait de répréhensible, mais là c'est un peu trop, et ça c'est faux. Si tu veux mon avis, il ne s'est rien passé, ou presque rien. Et toute cette histoire de café a été inventée pour que tu te révoltes contre les flics et la société. Les gens, ces gens-là, recherchent à te marginaliser pour que tu deviennes comme eux, contestataire à vie. Et pour cela, ils veulent que tu restes à terre, que tu n'aies pas ta place dans la société, car ils veulent que toi et les jeunes comme toi passent toute leur vie à créer des troubles dans la société, être constamment contestataire à vie. Se disent de gauche, et c'est tout. Font tout pour te sortir de la société. C'est un non-sens. Car qui dit gauche dit commune, communion, union, ensemble, en harmonie, socialisme, social, société, être bien dans la société. Ce qui fait, gauche veut dire ensemble, dans la société, se sentir bien au milieu des autres, faire communion avec l'autre, avoir sa place au milieu de la société. Et eux font le contraire, avec les squats, les échanges cailloux, les cannabis, drogues et tout, toujours être contre tout, le système, comme ils disent. Fais attention, tu es jeune et on cherche à t'endoctriner.
Gilles lui répond: tu fais pas de soucis, puis ils sont pas si méchants que ça. Puis tu sais, j'ai vu les cartes police, mais tu n'as pas vu la fin de la manifestation. Non, mais le jeune y était, et là tout de même, il a 27 ans, tu sais. Réfléchis, après tu verras. Remarque, tu as peut-être raison. Ils ont fini de dîner. Gilles a poussé le fauteuil de son père pour aller au même salon. Ils se sont assis pour la soirée. Le père va écouter de la musique pendant que Gilles, assis à une table à côté de lui, va étudier. Gilles a vu son père en face de la chaîne. Il est vers la chaîne et lui demande: tu vas écouter quoi ce soir?
Du Mozart.
Gilles prend une cassette, la lui montre. Ça va?
Oui, c'est très bien.
Et Gilles met la cassette. Se met à temps pour étudier.
Deux heures plus tard, ils sont sortis du salon. Gilles a poussé toujours le fauteuil de son père jusque vers les escaliers. Là, il y a un petit ascenseur qui monte aux chambres. Ils le prennent. Pour avoir sorti de l'ascenseur, Gilles mène son père jusqu'à sa chambre.
Il ouvre la porte et il entre.
Le père le regarde bien et lui dit « Baisse-toi !» Il se baisse. Le père le prend par le menton et lui dit « N'est pas bon, mon fils !» Puis, il lui prend les mains et lui dit « Tu as des mains d'aristocrate !» Gilles rougit. Son père, aux ses épaules, lui dit « Idiot, je ne veux pas dire des trousseurs de peuple, mais que tu as des mains plus élégantes que les autres. Alors, que fais-tu au milieu de ces ploucs, toi, si élégant ?» Gilles lui répond « C'est là que se trouvent mes copains ?»« Eh bien, tes copains sont pas très intelligents pour se laisser mener par cette bande d'abrutis. » Dis pas ça, ils sont très gentils. Allez, bonne nuit. Le fils se baisse. Le père lui l'embrasse. Bonne nuit, père.
Et il sort de la chambre de son père. La chambre, lui, se trouve à côté de celle de son père. Il y rentre. C'est une grande pièce, meublée avec des meubles Louis XVIII. Un lit à une place, une table de nuit, une armoire, un bureau, une chaise. C'est propre, net, rien ne traîne. Son père tient à ce que sa chambre soit comme ça et que ce soit Gilles qui la nettoie. Gilles se déshabille. Reste en slip et va à la salle de bain par la porte attenant à sa chambre. Après avoir pris sa douche, il entre dans sa chambre. Il se couche.
Lorsqu'il n'est pas trop fatigué, il lui arrive d'écouter la radio, surtout le jeudi pour l'écran radiophonique. Et la plupart du temps, une fois au lit, il s'endort presque de suite. Rien, ou si peu de choses viennent troubler son sommeil. Il connaît les choses de la vie, mais son âme est d'une pureté, bonté, qu'il fait que ses pensées ne peuvent être que bonnes. Ses cours au lycée du parc, chez lui et la radio.
soir, qui sont au salon, assis, l'un à côté de l'autre, le père se sent là et lui dit
« Tu sais, j'ai peur de mourir avant que tu deviennes adulte. »
Gilles lui prend la main et lui dit « Oh papa, tu es encore très jeune. »
« Non, dis ça, mais le temps passe vite. J'aimerais te voir avoir une place dans la vie.
Nous avons le temps. »
« Ne crois pas, je suis malade. »
« Non, pas autant que lui le croit. »
« Chut. Chut, tais-toi. J'ai peur que les autres te détruisent ton avenir par méchanceté, jalousie. » Fais attention aux femmes aussi. Faut pas qu'elles te volent ta vie. Je te veux libre. Choisis bien tes amis, car on va te juger d'après tes relations.
Le père lui prend fortement la main.
Je te le promets, papa.
Le père est pris par la hantise de la mort, et comme il veut que tout soit en ordre et que son fils puisse hériter comme il faut, le soir dans son bureau, il lui fait classer des factures pour bien lui montrer où elles sont. Il met sur le compte du chéquier de Gilles une bonne somme pour payer les choses urgentes lorsqu'il ne sera plus là. Il lui montre tous les papiers de propriété.
Faut bien que tu le débrouilles tout seul bientôt.
Mais père, tu ne vas pas mourir.
Tu sais, bientôt tu vas avoir 18 ans et tu seras major. Tu pourras faire les choses par toi-même. Moi, je le peux de moins en moins. Cela me fatigue.
Mais père... Gilles a peur, car il se dit que son père veut le faire vivre plus tard à sa façon. Il ne veut pas être enfermé dans cette maison à trier des papiers et à voir entrer les bénéfices des actions. Il veut être biologiste plus tard et voyager. Mais il voit de jour en jour son père diminuer, vieillir, a des difficultés à parler, respirer. Gilles panique, prend peur. Dès qu'il a fini ses cours, il rentre directement chez lui pour être près de son père, pour lui tenir compagnie ou l'aider. Il a arrêté la radio et toutes les activités attractives. Il fait tout pour faire plaisir à son père. Il lui achète des disques, livres, lui fait la lecture, joue aux dames avec lui. Et cette façon de vivre mine Gilles malgré lui. Mais quelque chose le pousse à se sacrifier. Après ses cours, il rencontre dehors de ses copains.
Frédéric, un jeune homme de taille moyenne, beau, visage agréable, cheveux châtains, habillé d'un pantalon marine et d'un blouson vert.
Pâle.
Frédéric lui demande, « Que deviens-tu ? On ne te voit plus. » Je lui dis, « Je prépare mon bac. » Frédéric lui dit, « Tu as arrêté la radio aussi ?»« Oui, je ne peux plus, j'ai plus longtemps. » Puis, mon père n'est pas bien. Les cours et tout ça, tu vois. Frédéric lui dit, je devrais te détendre un peu. Si tu veux, viens avec moi. Je pars en fin de semaine dans le midi. Nous allons camper et nous irons nager. Ça te va? Je lui réponds, je ne peux pas. Je dois rester avec mon père qui n'est pas bien. Je veux bien laisser ton père 2 jours tout de même. Écoute, tu donneras la réponse. Une réponse sûre, demain, j'irai la chercher à sortir de tes cours. D'accord? D'accord. Gilles, chez lui, durant la soirée, il pense à la proposition de Frédéric. Cela lui fait tout de même quelque chose de ne pouvoir y aller. Durant le dîner, son père lui demande, « Qu'as-tu ? Je te trouve triste. » Ce n'est rien. Parle. Ne sommes-nous pas amis ? Alors Gilles, pour prouver à son père, qui n'a rien à lui cacher, lui dit « C'est mon copain Frédéric qui m'invite à passer la fin de semaine chez lui, dans le midi. Accepte. Je me sens mieux. Tu as besoin de te distraire. Mais papa, non. Accepte. » Le lendemain, après ses cours, Gilles rencontre Frédéric et lui dit « C'est d'accord, bien, nous donnons rendez-vous en bas de chez toi à 6h, samedi. J'amènerai la vieille 2 chevaux de mon père. » Le soir, au salon, après le dîner, le père et le fils sont à jouer aux dames. Le père est pris d'étouffement. Ça ne va pas, père. Le père ne peut rien dire. Vite, Gilles appelle le domestique pour qu'il fasse venir le médecin et pour qu'il aide à coucher son père. Le médecin, un homme à cheveux blancs, a examiné le père. Il dit à Gilles, « Votre père est très bas. Il lui faut du repos et qu'on s'occupe de lui. Je peux compter sur vous ?
Oui, docteur.
Bien, je ferai venir une infirmière dès que possible. »
Et le docteur s'éloigne.
Le père de Gilles dit, « Tu seras bientôt libre. »
Je lui dis, « Que racontes-tu là ? Je suis libre, père. »
Et il sort de la chambre. Pour aller au bureau de son père, qui est au premier étage.
téléphoner à Frédéric.
Frédéric, c'est moi, Gilles. Je ne peux pas venir. Mon père est trop mal.
Les jours passent, le père se rétablit et se retrouve dans son fauteuil. Gilles reprend sa vie, lycée, maison.
Gilles s'apprête à ouvrir le portail pour entrer chez lui. Tout d'un coup, deux jeunes le coincent. Deux jeunes entre 18 et 20 ans, grands, minces, les cheveux noirs, le visage dur, habillés de jeans, baskets blanches, t-shirt blanc, sale, une casquette rouge sur la tête. Ces deux jeunes le sont mis en face de Gilles et lui barrent le passage. Il est surpris sans plus. Un des deux jeunes le bouscule et lui donne une tape sur la poitrine et lui dit « Quiconque ». Gilles ne répond pas. Alors le jeune, très vite, sort un couteau sans que Gilles ne le voie et lui en donne un coup dans la poitrine. Oh ! Gilles est tombé. Le couteau dans la poitrine, d'autres jeunes courent. Le père qui a entendu du bruit regarde à la fenêtre. Il voit son fils à terre qui ne bouge pas, un couteau dans la poitrine.
Au secours! Au secours!
Il ouvre en vitesse la fenêtre. Mon fils, mon fils, mon fils. Oubliant son mal, pris une force surhumaine, il sort de la chambre avec son fauteuil, prend l'ascenseur, va jusqu'au rez-de-chaussée. Là, un domestique le voit. Que se passe-t-il, monsieur? Mon fils, vite, dehors, vite, vite. Le domestique pousse le fauteuil jusque dehors. Et là, derrière le portail, il voit Gilles à terre. Le père le voit. Il veut encore. Il se penche comme il peut et lui tend la main. L'enfant a tout juste eu le temps de sourire. Il meurt la tête sur les genoux du père.
Les voisins, les domestiques ont appelé la police, les pompiers. Ils ont bloqué la rue et emmené l'enfant du père à l'hôpital. Pendant ce temps, la police a fait son enquête. Elle a interrogé les voisins. Ils ont pu faire un porte-robot des deux voyous, car les voisins les ont vus de leur fenêtre. Les deux voyous ont été interpellés deux roues plus loin. Ils étaient assis à la terrasse d'un café. Lorsqu'ils sont venus venir la police, ils ont paniqué. Ils ont voulu s'enfuir, et la police les a pris. Au commissariat, celui qui n'avait pas tué a dit qu'il ne voulait pas payer pour l'autre et a dit qu'il n'avait rien fait, que c'était son copain qui avait tout fait. L'autre le traite de salaud et dit « De toute façon, je m'en fous. La peine de mort est abolie. » Le commissaire, un petit homme à moustache et cheveux noirs, lui demande « Pourquoi as-tu tué ? Pourquoi as-tu tué ce jeune ? Pour rien, comme ça. T'avais fait quelque chose ? Non, mais comme ça. Or pourquoi l'avoir accosté ? Comme ça, parce que je n'aime pas son genre. Tu as tué comme ça alors ? Il hausse ses épaules. Tu regrettes ton geste ? Je m'en fous. Le père est effondré par la mort de son fils. Frédéric va le voir. Ils sont tous deux au salon.
C'est moi qui aurais dû mourir. Ce n'est pas lui. Lui était en pleine santé. Plein d'avenir. Moi, j'étais déjà à pied dans la tombe. Pourquoi la mort l'a-t-elle prise avant moi ?
C'est pas nous qui décidons. Et la mort ne s'occupe ni de l'âge, ni de la maladie, ni si on est bon, ni si on est mauvais. Tous égaux devant la mort. Malade, bien portant, vieux, jeune, bon, mauvais. Toutes ces choses-là, la mort ne s'en occupe pas. Tout ça, elle s'en fiche. Ce sont des affaires de vivants. On ne peut pas parier avec elle.
Je sais, j'ai parié ma mort, alors que c'est moi qui reste.
Jacques Anet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Le choix de Tanutos, production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.